Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le Seigneur Jésus a souvent raconté des paraboles pour illustrer des vérités spirituelles importantes. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'une d'entre elles, celle qui est connue sous le nom de la parabole du vigneron et de ses ouvriers.
Dans un instant, Robert se joindra à nous pour en parler. Mais d'abord, Sandra va nous lire cette parabole.
Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi. Et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers !» disent-ils. « Ils n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? » Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers.
Vous venez d'écouter la lecture de la parabole du vigneron et de ses ouvriers. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Et le moment est venu pour souhaiter la bienvenue à Robert. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Nous avons donc lu la parabole du vigneron et de ses ouvriers. Mais avant d'en parler, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une parabole?
Oui, une parabole est une courte histoire ou bien une illustration dont le but est de nous faire réfléchir sur des vérités spirituelles importantes. Ainsi, l'objectif de la parabole du vigneron et de ses ouvriers n'est pas de nous parler des rapports entre employeur et employé. Non, son but est de nous révéler une vérité sur le royaume de Dieu, plus précisément sur la grâce de Dieu. Les paraboles de Jésus dépeignent la vie quotidienne des hommes et des femmes vivant à cette époque, dans ce contexte-là. De toute évidence, son public comprenait parfaitement de quoi Jésus parlait. Toutefois, ces paraboles contiennent souvent des surprises, des incidents inattendus, et ceux-ci ont pour but d'ouvrir les yeux des gens aux vérités spirituelles jusqu'alors incomprises par eux.
Et en quoi cette parabole du vigneron reflète-t-elle la vie des gens à cette époque-là? Et quelles en sont les surprises?
Cette parabole nous présente un important propriétaire qui possède des champs de vignes. Et voilà que ces vignes produisent des grappes de raisin. Alors, à cette époque, lorsqu'un tel propriétaire avait besoin de main-d'œuvre, pour une récolte par exemple, il embauchait en général ses ouvriers à la journée. Les personnes désireuses de trouver du travail attendaient sur la place du marché du village dans l'espoir que quelqu'un viendrait les embaucher chaque jour. C'est ainsi qu'un ouvrier gagnait sa vie et pourvoyait aux besoins de sa famille. C'est ainsi que le marché du travail fonctionnait à cette époque.
C'était un système assez précaire, car les ouvriers ignoraient d'un jour à l'autre s'ils allaient trouver du travail.
Vous avez raison, Yann. Abordons maintenant les surprises présentes dans cette parabole. Il y en a plusieurs. D'abord, c'est le propriétaire lui-même qui vient sur la place du marché pour s'occuper de l'embauche des ouvriers.
Et pourquoi cela est-il si étonnant ?
Mais parce que d'habitude, le propriétaire déléguait un tel travail à son contremaître. Ensuite, il est étonnant que le propriétaire revienne plusieurs fois dans la même journée pour chercher d'autres ouvriers.
Mais le plus surprenant encore est que ce propriétaire donne le même salaire à tous. L'ouvrier ayant travaillé 12 heures, comme à celui qui n'a travaillé qu'une seule heure.
C'est vrai, Yann. Et cette pratique a beaucoup déplu aux ouvriers, qui avaient déjà travaillé bien plus que les autres.
Ça me semble normal. Ils ont perçu cette façon de faire comme une injustice.
Oui, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas affirmer que cette parabole représente un exemple à suivre en ce qui concerne les rapports d'employeur à employé. Non, car n'oublions pas qu'une parabole dépeint des vérités spirituelles. Elles enseignent que le royaume des cieux n'est pas comme notre monde. Elles ouvrent nos yeux à un Dieu qui fait grâce généreusement. D'ailleurs, dans les émissions à venir, nous nous pencherons sur chacune de ces surprises renfermées dans les paraboles et nous apprendrons des vérités spirituelles fort importantes.
Parlez-nous davantage des prochaines émissions.
La prochaine fois, nous parlerons du propriétaire. Dès à présent, je peux affirmer qu'il représente Dieu et nous découvrirons la profondeur de sa bonté et de sa grâce. Durant l'émission suivante, nous réfléchirons sur le comportement des premiers ouvriers embauchés et nous y verrons quelques avertissements. Puis, lors de ma dernière intervention, nous nous pencherons sur les derniers ouvriers embauchés pour aborder la question suivante : comment vivre à la lumière de la grâce de Dieu ?
Merci Robert. En attendant, pouvez-vous nous parler de la leçon fondamentale enseignée par cette parabole ?
Oui. Je pense qu'il existe un grand danger spirituel dans lequel beaucoup tombent trop facilement.
Quel est-il et quel est son rapport avec notre parabole?
Le danger est de concevoir sa relation avec Dieu un peu comme s'il était un employeur pour lequel il faut travailler afin de mériter son salaire. En abordant les questions religieuses, nombreux sont ceux qui se demandent « Que dois-je faire pour mériter la faveur de Dieu, pour gagner ses bénédictions ?» En général, ils répondent en ces termes. Il faut mener une vie pieuse, prier plusieurs fois par jour, jeûner aussi un certain nombre de fois par an, etc., etc. Ou bien, il faut que je respecte les lois et règlements en vigueur, que je me prive de certaines activités et que je m'abstienne de tel aliment ou de telle boisson. Ou encore, je dois accomplir de bonnes œuvres, donner mon temps et mon argent aux associations caritatives, etc. Voyez-vous, dans chacun de ces cas, ces personnes pensent pouvoir obtenir la faveur de Dieu, comme si sa bénédiction était un dû, un salaire donné pour service rendu. Alors, précisons-le, il est bien de mener une vie pieuse, il est important de respecter les lois de son pays, admirable de contribuer au bien-être des autres. Toutefois, selon la Bible, ce n'est pas ainsi que nous recevons la faveur et la bénédiction de Dieu. Si nous accomplissons le bien juste dans l'espoir de mériter les récompenses de Dieu, alors nous serons déçus. Voilà le message exprimé dans cette parabole.
Et la parabole se termine avec la conclusion suivante. Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers.
Oui, c'est un thème qui revient souvent dans les évangiles. Dans notre parabole, les premiers embauchés n'ont malheureusement pas compris la bonté et la grâce du propriétaire. En effet, beaucoup de gens n'arrivent pas à se libérer d'une mentalité fondée sur leur propre mérite. Ils peuvent même développer un certain orgueil en considérant ce qu'ils accomplissent. Cependant, selon Jésus, ces personnes, si elles ferment leur cœur à la grâce de Dieu, seront perdantes. Les derniers embauchés de la parabole ont reçu bien plus qu'ils ne s'y attendaient. Du coup, ils ont été les premiers à vraiment comprendre la grâce et la générosité de leur employeur. Et ils ont ainsi pu en jouir pleinement.
Pouvez-vous nous aider à comprendre comment ce principe, les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, se traduit dans notre vie de tous les jours?
Oui, voilà quelques exemples qui répondront à cette question. Dans notre société, souvent les gens riches, puissants ou cultivés, ou ayant une excellente profession, sont admirés et considérés comme les meilleurs. Aux yeux de tous, ils sont les premiers. Malheureusement, beaucoup parmi eux ne voient pas leurs besoins de Dieu. Riches, éduqués, possédant le pouvoir, ils pensent pouvoir se débrouiller tout seuls et sont sûrs que leurs propres efforts sont suffisants. Satisfaits et fiers, ils ne comprennent ni la grâce ni la générosité de Dieu. Et du coup, ils s'en privent. Par conséquent, un jour, ils deviendront les derniers, les grands perdants. De la même manière, l'orgueil, qui découle de la pratique d'une religion d'œuvre, d'une vie droite et respectable, aveugle les gens. Il les empêche de voir et de comprendre la grâce et la générosité de Dieu. Pensant être les meilleurs, les premiers en faisant le bien, ils ne se préoccupent pas de Dieu et deviennent, de ce fait, les grands perdants, les derniers.
Voulez-vous dire que les gens rendus humbles par les épreuves de la vie comprennent plus facilement la grâce de Dieu?
Oui, c'est souvent le cas. Les pauvres et les marginalisés, parce qu'ils sont conscients de leurs besoins, se tournent plus facilement vers Dieu et découvrent alors sa grâce et sa générosité. De même, les gens méchants, conscients d'avoir gâché leur vie et celle des autres, parce qu'ils vivent avec une grande culpabilité, éprouvent le besoin d'un sauveur. Ils comprennent la grâce de Dieu qui pardonne, laquelle leur offre un nouveau départ dans la vie. De telles personnes, souvent méprisées par la société, considérées comme les dernières, en découvrant la grâce de Dieu, deviennent les premières, car elles ont compris le plus important. Elles ont découvert le chemin qui mène à la vie éternelle.
Merci Robert. Quelle est donc la leçon la plus importante, celle que vous voudriez que nos auditeurs retiennent?
Laissons de côté l'orgueil qui nous aveugle, l'orgueil qui nous pousse à penser que Dieu nous doit quelque chose, que Dieu est obligé de nous bénir, car nous serons alors déçus. C'est lorsque nous nous humilions devant Dieu que nous découvrons sa grâce, le plus merveilleux des trésors.
Merci Robert, nous sommes impatients d'en apprendre davantage quand vous reviendrez la prochaine fois pour poursuivre ces discussions sur cette parabole du vigneron et ses ouvriers.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.